Précisément 18h sur France Culture, le journal Stéphane Geneste. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. La République En Marche a une nouvelle candidate pour la mairie de Paris. Il s'agit d'Agnès Buzyn. Elle a près d'un mois pour mobiliser les sympathisants de la majorité présidentielle. Agnès Buzyn va devoir quitter son poste de ministre de la Santé. Nous retrouverons notre reporter au siège de La République En Marche. Alors qu'elle est encore pour quelques heures ministre de la Santé, Agnès Buzyn est en charge de plusieurs gros dossiers, notamment le coronavirus et la réforme de l'hôpital. Nous verrons que les syndicats hospitaliers se mobiliseront pour perturber sa campagne. La 56e conférence consacrée à la sécurité internationale s'est achevée cet après-midi. Que peut-on en retenir? Les éléments de réponse avec Ludovic Piétenu, le correspondant de France Culture en Allemagne. Et enfin, en Hongrie, Viktor Orban a tenu son discours annuel de politique sur l'état de l'Union, une allocution assez éloignée de la réalité. Après deux jours de discussion, les cadres de La République En Marche ont fait leur choix. C'est Agnès Buzyn qui a été désignée candidate pour remplacer Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. C'est Emmanuel Macron lui-même qui aurait convaincu Agnès Buzyn de se lancer dans cette campagne pour les élections municipales de la capitale. Simon Le Baron, vous êtes au siège de La République En Marche et cette campagne va être difficile pour Agnès Buzyn.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se dévoue en quelque sorte pour reprendre en catastrophe cette campagne parisienne, moins de trois jours après le renoncement du candidat officiel Benjamin Griveaux. Elle va donc devoir mener cette campagne de moins d'un mois désormais jusqu'au premier tour des élections municipales et Agnès Buzyn va quitter le gouvernement. Le bureau exécutif du mouvement présidentiel est réuni en ce moment pour valider formellement la candidature d'Agnès Buzyn à la mairie de Paris. Dans la foulée, elle remettra sa démission au Premier ministre Édouard Philippe qui devra donc trouver un remplaçant ou une remplaçante à Agnès Buzyn au ministère de la Santé, alors que il y a effectivement cette épidémie de coronavirus, qu'il y a la crise de l'hôpital public et que dès demain à l'Assemblée nationale commence dans l'hémicycle le débat sur la réforme des retraites, donc dossier chargé pour le futur ministre de la Santé. Un nom tient la corde, celui d'Olivier Véran, député de l'Isère, médecin, rapporteur de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, pour remplacer donc Agnès Buzyn qui va mener cette campagne désormais à Paris. Mission commando, mission quasi impossible, disent beaucoup d'observateurs, mais la ministre, désormais candidate, l'assure, j'y vais pour gagner.
Simon Le Baron depuis le siège de La République En Marche. Et l'annonce faite par LREM de propulser Agnès Buzyn en tête de liste pour la campagne des élections municipales à Paris fait réagir. D'un côté, l'opposition considère qu'elle y va à reculons. C'est en tout cas ce que constate Yann Brossa, porte-parole du PCF et maire adjoint à la mairie de Paris chargé du logement. Et d'un autre côté, les équipes de Cédric Villani ont fait savoir qu'ils trouvaient cette décision incompréhensible. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, va devoir donc se lancer pleinement dans cette campagne électorale à Paris. Elle dit bien connaître la capitale, qu'elle l'aime et déclare y aller pour gagner. Agnès Buzyn était ces derniers jours en première ligne en gérant plusieurs dossiers, dont le coronavirus et la réforme de l'hôpital. L'actuelle candidate La République En Marche à la mairie de Paris quitte donc le ministère de la Santé qui est en plein mouvement de colère pour Olivier Huynou, co-secrétaire général Sud Santé pour l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, APHP. C'est l'ultime signe de mépris. Il annonce vouloir perturber la campagne municipale d'Agnès Buzyn.
Alors que ça fait maintenant, depuis qu'elle est au ministère, qu'on demande à la rencontrer. Depuis mars dernier, qu'on demande à la voir pour de véritables négociations sur les revendications qui sont les nôtres. Elle a toujours fui. Là, elle ne va pas pouvoir fuir parce que il va falloir qu'elle se montre, il va falloir qu'elle aille sur la place publique, il va falloir qu'elle organise des réunions, il va falloir qu'elle rencontre les citoyens, qu'elle rencontre les électeurs. Et ben, on sera là et on sera là à chaque fois, je pense. Donc ça risque d'être compliqué pour elle, effectivement.
Olivier Huynou, co-secrétaire général Sud Santé pour l'APHP, joint par Benoît Bouscarel. Et Piotr Pawlenski, celui qui a fait tomber Benjamin Griveaux, a été placé en garde à vue, tout comme sa compagne, l'activiste russe qui revendique la diffusion de vidéos intimes ayant entraîné la chute de Benjamin Griveaux a d'abord été arrêté hier dans le cadre d'une autre enquête pour des faits de violence commis le soir du 31 décembre dernier. Mais sa garde à vue a été suspendue afin de pouvoir l'interroger sur l'affaire des vidéos dont il a revendiqué être à l'origine de la publication. Piotr Pawlenski et sa partenaire, âgée de 29 ans, ont été arrêtés pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'image à caractère sexuel, après la plainte déposée par Benjamin Griveaux. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, Frédéric Martel, vous reviendrez sur cette affaire dans Soft Power.
Absolument, dans l'actualité ce soir, on parlera de cet artiste russe né à Leningrad, et puis on se demandera quelle responsabilité d'Internet et des réseaux sociaux dans cette affaire.
Suite et fin de la 56e conférence internationale sur la sécurité qui se déroulait ce week-end à Munich, plus couramment appelé le Davos de la sécurité. Ce rendez-vous a réuni un nombre inédit de responsables politiques, plus de 35 chefs d'État et de gouvernement et une centaine de ministres. Ludovic Piétenu, vous êtes le correspondant de France Culture en Allemagne. Vous avez suivi ce rendez-vous diplomatique incontournable. Faisons le bilan, qui a marqué les esprits ?
De l'avis d'un diplomate expérimenté, il est l'organisateur de cette conférence, Wolfgang Ischinger. C'est la prestation du président français Emmanuel Macron qui a été le temps fort absolu. C'est ce qu'il écrit aujourd'hui dans un tweet en guise de mot de la fin. Avis partagé par un très grand nombre de participants. C'était donc hier matin. Emmanuel Macron, c'est vrai, très à l'aise dans cet exercice de questions-réponses avec la salle. Bien meilleur qu'en discours. Ici, rien d'écrit. Le moment était direct. Sa langue n'était pas faite de bois. Parfois même, on peut le dire, peu diplomatique. Et profitant du fait d'être à Munich, il s'en est pris à l'Allemagne en lui reprochant son manque de répondant sur ses nombreuses propositions qu'il formule sur l'Europe depuis bientôt 3 ans. Il a dit son impatience et c'est ça qui est aussi intéressant dans cette conférence de Munich. Il y a ce qui se passe sur scène et ce qui se passe en coulisses. Emmanuel Macron a clairement cherché à rencontrer ceux qui vont faire la vie politique allemande de ces prochains mois. Il l'a fait savoir comme s'il avait compris que plus rien ou pas grand chose ne viendrait de Berlin d'ici aux élections, qu'il faut déjà préparer l'après Merkel, dont le mandat doit s'achever au plus tard à l'automne l'année prochaine. Il a notamment rencontré les deux leaders des Verts, car la probabilité est forte qu'ils entrent au gouvernement en coalition avec la CDU et la CSU. Chez les conservateurs, justement, il a vu aussi Markus Söder, candidat possible à la chancellerie. Et tous sont du côté d'Emmanuel Macron. Il regrette que l'Allemagne ne lui réponde pas de façon plus déterminée, plus rapide. Un autre candidat possible pour le camp conservateur, Armin Laschet, habituellement très pro-Merkel, a ce matin surpris pas mal de monde quand il a sur scène critiqué publiquement la chancelière pour son manque de réactivité vis-à-vis du président français et plus largement sur les questions européennes. L'Allemagne attendue d'autant plus qu'elle assure à partir du mois de juillet et pour 6 mois la présidence tournante de l'Union européenne.
Ludovic Piétenu, à Munich. Le coronavirus qui continue de faire des victimes. Près de 1700 personnes sont mortes après l'avoir contracté, et ce, principalement en Chine. Les autorités chinoises constatent que le nombre de nouveaux cas de coronavirus diminue de jour en jour. Ils estiment que leurs efforts commencent à porter leurs fruits. Au Japon, les passagers américains du paquebot Diamond Princess, placés en quarantaine dans un port au sud de Tokyo, ont commencé à être évacués. En plus des États-Unis, les gouvernements de Hong Kong et du Canada ont aussi décidé d'évacuer leurs ressortissants en urgence. Des avions spéciaux ont été affrétés et d'autres pays devraient prendre des décisions similaires. En Hongrie, comme chaque année, Viktor Orban a prononcé son discours sur l'état de la nation, un rituel copié sur la présidence américaine. Cette année, cela fera 10 ans que le chef de la droite nationaliste est au pouvoir. Viktor Orban s'est félicité de ses résultats dans un discours assez éloigné de la réalité. À Budapest, Florence Labruyère.
Tout va bien dans la Hongrie de Viktor Orban. Le pays n'a jamais connu une telle réussite depuis 100 ans, affirme l'homme fort de Budapest, qui se drape dans un nouveau costume écolo. À son retour au pouvoir il y a 10 ans, Viktor Orban s'était empressé de supprimer le ministère de l'écologie. Mais aujourd'hui, il se rhabille en vert et annonce un programme de protection de l'environnement. Pour chaque nouveau-né, la Hongrie plantera 10 arbres. Dans son discours, le Premier ministre hongrois a ignoré les sujets qui fâchent et présenté la réalité de manière très lisse. Pas un mot sur les tensions récentes avec la communauté rome. Des tensions que Viktor Orban a lui-même attisées en s'opposant à une décision d'un tribunal qui a indemnisé des jeunes roms victimes de ségrégation. Au moment où Viktor Orban prononçait son discours sur l'état de la nation, des milices d'extrême droite défilaient ce dimanche dans le nord de la Hongrie pour stigmatiser la communauté tzigane. Viktor Orban a également évité de parler de la fronde des enseignants. Ces derniers s'opposent au nouveau programme scolaire défini par l'État, un programme nationaliste qui inclut des auteurs antisémites. L'écrivain juif Imre Kertész, prix Nobel de littérature, a lui été exclu de la liste. Plusieurs syndicats d'enseignants ont demandé le retrait de ce programme qui est, selon eux, un poison pour la pensée.
En Tunisie, le Premier ministre désigné, Elyes Fakhfakh, a annoncé hier soir la composition de son futur gouvernement. Mais il fait face à de nouvelles difficultés. En effet, le retrait de l'un de ses principaux partenaires, le parti d'inspiration islamiste, Ennahda, arrivé en tête lors des élections législatives en octobre dernier, rend le sort de ce gouvernement incertain. On l'a appris cet après-midi, la mort du chanteur de folk Graham Allwhite. Il était âgé de 93 ans. Le chanteur français, d'origine néo-zélandaise, était notamment connu pour avoir adapté de nombreuses chansons d'artistes folk américains en français. La météo, avec les départements qui composent la Bretagne ainsi que le Calvados et la Manche, placés en vigilance orange pour vent et pluie inondation. Demain matin, des pluies sont à prévoir un peu partout sur le pays et notamment des averses orageuses sur le nord-ouest de la France. Seule la Corse et la Côte d'Azur seront épargnées par ces précipitations. Du côté des températures, prévoyez 9 degrés à Metz, 10 à Auxerre et Périgueux, 12 degrés en région parisienne ainsi qu'à Brest, 15 degrés à Toulon et 16 à Perpignan et Ajaccio. 18h10 sur France Culture, ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.